Radio Prague, les informations. Bonjour, les premiers ministres des quatre pays du groupe de Visegrad étaient réunis en Pologne ce mardi. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a critiqué les politiciens populistes, parmi lesquels le président tchèque Miloš Zeman. Et puis en fond sport en tennis, Karolina Plíšková s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'US Open. Les chefs de gouvernement des quatre pays du groupe dit de Visegrad, qui réunit la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, étaient réunis à Krenice, dans le sud-est de la Pologne, ce mardi. Objectif de cette rencontre, trouver une position commune sur les questions liées à la migration et à l'avenir de l'Union européenne après le Brexit, une position que les quatre pays présenteront lors du sommet européen prévu à Bratislava le 16 septembre. Les quatre premiers ministres ont également participé à un forum économique annuel en présence de leur homologue ukrainien. Au programme de cette rencontre figurait notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine ou l'évolution de la situation en Turquie. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le prince Zayed Raad Zed Al-Hussein, a mis en garde contre les politiciens populistes, politiciens qui manipulent le public en diffusant un message de peur ainsi que des préjugés raciaux et religieux. Parmi eux, il a nommé notamment le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, l'homme politique néerlandais Geert Wilders ou la chef du Front National en France, Marine Le Pen, mais aussi le président tchèque Miloš Zeman ou encore le premier ministre slovaque Robert Fico. Le haut-commissaire a comparé leurs tactiques utilisant des demi-vérités et des simplifications à la propagande de l'État islamique. Les propos du haut-commissaire ont été catégoriquement rejetés par le château de Prague, qui a indiqué que le président Zeman, je cite, « continuerait à défendre la République tchèque contre les menaces terroristes liées à la migration ». Le ministre des Finances et leader du mouvement ANO, Andrei Babiš, s'est rendu ce mardi matin à Leti, c'est en Bohême du Sud, sur le site de l'ancien camp d'internement des Roms, en compagnie des ministres de la Justice et de la Culture. Andrei Babiš a décidé de visiter ce lieu suite à une recommandation du Premier ministre Bohuslav Sobotka, après avoir mis en cause l'Holocauste Rome en déclarant jeudi dernier, que ce n'était pas un camp de concentration, mais un camp de travail, des déclarations qui ont déclenché de nombreuses réactions d'indignation. À Leti, Andrei Babiš a rendu hommage aux victimes et a de nouveau répété que ces paroles avaient été, je cite, « sorties de leur contexte ». La municipalité de Prague entend disposer d'ici au mois de décembre prochain d'une stratégie définissant les mesures via lesquelles la ville s'adaptera au changement climatique. La capitale tchèque souhaite être prête à faire face à la sécheresse ainsi qu'aux inondations subites. Le conseil municipal prévoit notamment d'augmenter le nombre d'espaces verts et de surfaces d'eau avec la construction d'étangs. En janvier dernier, Prague s'est jointe à la Convention des maires pour le climat et l'énergie, une initiative urbaine européenne qui rassemble des milliers d'autorités locales et régionales volontairement engagées dans la mise en garde, dans la mise en œuvre, pardon, des objectifs européens en termes de climat et d'énergie sur leur territoire. En octobre prochain, Prague accueillera une conférence internationale qui rassemblera les représentants des villes signataires. On passe au sport avec d'abord du tennis. Dernière joueuse tchèque encore en lice à l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Karolina Plíšková a battu l'américaine Venus Williams en 3-7 en huitième de finale mardi à New York. Actuelle 11e mondiale, Karolina Plíšková s'est ainsi offert le premier quart de finale d'un Grand Chelem de sa carrière. Elle y affrontera la Croate Anna Konjuk. Et puis, un peu moins de 3 semaines après la clôture des Jeux Olympiques, les 15e Jeux Paralympiques d'été seront ouverts à Rio de Janeiro ce mercredi. 39 sportifs tchèques y prendront part, soit 7 de moins qu'à Londres il y a 4 ans de cela. Présent au Brésil, le cycliste Jiří Ježek, sextuple champion olympique et détenteur de 11 médailles, est le sportif paralympique tchèque le plus titré de l'histoire. C'est lui qui sera le porte-drapeau de la délégation tchèque au stade Maracanã. Et puis on termine avec un mot de météo. Un grand soleil règne sur l'ensemble du territoire à compter de ce mercredi et ce au moins jusqu'à la fin de cette semaine. Les températures continuent de grimper et varient entre 24 et 27 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. On retrouve maintenant Alžbieta Rujková qui nous accompagne pour la suite de ce programme. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à tous mes chers amis et bienvenue pour la suite de cette émission de Radio Prague consacrée à l'actualité tchèque. Avant de continuer, remercions tous ensemble à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Ce mardi, nous nous pencherons tout d'abord sur l'établissement de l'âge limite du départ à la retraite à 65 ans. Une nouvelle loi allant dans ce sens a été adoptée ce lundi par le gouvernement. Plus de détails en début de l'émission. On parlera ensuite du festival de Dvořákova Praha, un festival de musique classique qui a débuté ce lundi soir dans la capitale tchèque et qui présentera pendant les 3 semaines à venir une multitude d'artistes tchèques et étrangers. Et enfin, place à la rubrique Panorama, dans laquelle nous vous proposerons une nouvelle émission de notre série Czech Market consacrée aux Français qui ont pénétré sur le marché tchèque au cours des années 1990 et préparée par Agnès Zatorsky. Nous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Les Tchèques pourront partir à la retraite au plus tard à l'âge de 65 ans. C'est du moins ce que propose un projet de la loi adopté ce lundi par le gouvernement. Cette mesure, qui entrerait en vigueur en 2030, sera prochainement discutée par le Parlement. La législation tchèque ne définit actuellement pas l'âge maximal du départ à la retraite. Celui-ci augmente chaque année de 2 mois pour les hommes et de 4 mois pour les femmes. Ainsi, cette année, les hommes de 63 ans prennent leur retraite ainsi que les femmes âgées de 58 à 62 ans en fonction du nombre d'enfants qu'elles ont mis au monde. Dans la logique actuelle, les enfants nés en 2016, quant à eux, seraient contraints de travailler jusqu'à l'âge de 73 ans et demi. Ces perspectives pourraient bientôt changer car le gouvernement de Bohuslav Sobotka a approuvé ce lundi l'établissement de l'âge limite du départ à la retraite à 65 ans. La mesure concerne ainsi toutes les personnes nées après 1971. Celles nées avant cette date pourront partir plus tôt à la retraite. Le gouvernement a toutefois introduit un mécanisme de révision de ce seuil. Tous les 5 ans, cet âge maximal pourra faire l'objet d'une réévaluation en fonction notamment de l'évolution de l'espérance de vie à la naissance. Ce dispositif supplémentaire, qui a pour objectif d'assurer que chaque Tchèque passe environ un quart de sa vie à la retraite, déplaisait originairement au mouvement ANO et notamment à son leader Andrej Babiš. Le ministre des Finances a finalement accepté la décision de ses partenaires au sein de la coalition, le Parti social-démocrate et le Parti chrétien des démocrate, mais il a tout de même indiqué.
Nous faisons des promesses qui entreront en vigueur dans 14 ans, tout en sachant qu'il y aura 3, 4, 5 gouvernements qui peuvent changer les choses entre-temps. De plus, personne ne mentionne que cela va coûter 67 milliards de couronnes par an.
Andrej Babiš estime aussi que l'introduction d'un âge maximal du départ à la retraite aura pour conséquence une baisse du montant des pensions. De son côté, la ministre du Travail et des Affaires sociales, Mikhaela Marksová du Parti social-démocrate, considère ces changements nécessaires.
Premièrement, la République tchèque est le seul pays de l'Union européenne qui n'a pour l'instant pas défini l'âge maximal du départ à la retraite. Sur la question de la possibilité pour les gouvernements futurs de modifier cette limite, si l'on suit cette logique, nous ne pourrions adopter aucune loi, car il pourrait lui arriver la même chose. Et quand à la limite de 65 ans, je crois qu'elle n'est pas non plus surprenante. Comme je l'ai déjà dit, soyons réaliste. Nous ne pouvons pas obliger la plupart des gens de plus de 65 ans à travailler.
Mikhaela Marksová explique ensuite pourquoi son ministère a décidé de mettre en place un principe permettant de modifier à l'avenir ce seuil de 65 ans.
Já bych ještě ráda podotkla, že v tuto chvíli Česká republika.
À l'heure actuelle, l'espérance de vie des Tchèques est inférieure de 2 ans par rapport à celle des citoyens des pays de l'Europe de l'Ouest. Une réévaluation de cette limite tous les 5 ans ne représente donc qu'une sorte de garantie au cas où l'âge moyen des Tchèques change radicalement. Mais je crois que c'est peu probable.
Nějak prudce hnulo tím směrem výš, ale já si myslím, že to málo pravděpodobné.
Bien qu'adopté à l'unanimité du gouvernement, le projet de loi est critiqué par les représentants de l'opposition. Ancien ministre du Travail et des Affaires sociales, Jaromír Drábek du Parti conservateur Top 09 en dit plus.
Ce n'est qu'un jeu. On dit aux gens que l'on fixe un âge maximal de départ à la retraite, mais rien ne change dans la réalité.
Le projet a toutefois des partisans à la Chambre des députés et il devrait être adopté sans problème par les parlementaires. Les députés communistes veulent par ailleurs proposer de faire baisser cette limite à 63 ans. C'est devant la salle comble du Rudolfinum au centre de Prague et avec le concerto pour violon de Beethoven interprété par la fameuse Staatskapelle de Dresde qu'a débuté lundi soir la 9e édition du Festival international de musique Dvořáková Praha, la Prague de Dvořák, une des fêtes de musique les plus fréquentées dans la capitale. Jusqu'au 24 septembre prochain, le festival propose un programme envoûtant en présence entre autres de l'Orchestre symphonique de Londres, des pianistes Boris Berezovsky et Vu Han, ou des violonistes Gilles Scham et Daniel Hope. Plus de détails avec Magdalena Hrozinková.
Comme le veut la tradition, le festival Dvořáková Praha rend hommage au grand compositeur tchèque Antonín Dvořák, dont on fêtera le 8 septembre prochain le 175e anniversaire de la naissance. En l'occurrence, le festival présente l'ensemble des poèmes symphoniques et des ouvertures de Dvořák, ainsi que sa fameuse symphonie numéro 8 en sol majeur. Toutes ces œuvres seront interprétées par l'orchestre symphonique tchèque sous la baguette de son chef principal, Jiří Bělohlávek, et de Jakub Hruša. Marek Vrabec dirige le festival depuis 3 ans. On l'écoute.
My máme letos velké štěstí na významné prestižní symfonické orchestry.
Cette année, nous avons la chance d'accueillir de grands orchestres prestigieux, outre l'Orchestre national de Saxe de Dresde, dirigé par Christian Thielemann. Nous avons invité l'excellent Orchestre symphonique de Londres. Ce qui me fait double plaisir, c'est le fait qu'il présente au festival le concerto pour violoncelle d'Antonín Dvořák avec en soliste le Tchèque Jiří Bárta. Le concert de clôture sera quant à lui interprété par un ensemble italien, lui aussi mondialement connu, l'Orchestre de l'Académie nationale Sainte-Cécile, dirigé par son charismatique chef principal Antonio Papano.
Neméně charismatického a kouzelného umělce Antonia Papana s Gilem Shahamem.
L'orchestre italien accompagnera pour ce concert de clôture prévu pour le samedi 24 septembre le soliste israélo-américain Gil Shaham, considéré comme un des plus grands violonistes de notre époque. Au programme de cette soirée, sans doute exceptionnelle, des œuvres de Rossini et de Tchaïkovski. Vedette incontestable et incontestée de cette 9e édition du festival, Gil Shaham n'est évidemment pas le seul soliste de renommée internationale invité à Prague, Marek Vrabec précise.
C'est aussi Gidon Kremer, mais c'est aussi Daniel Hope.
Gidon Kremer et Daniel Hope, voilà deux remarquables violonistes qui se produiront également dans le cadre du festival. Par ailleurs, le Britannique Daniel Hope est aussi un promoteur passionné de musique. Il a collaboré à la mise en place du volet musique de chambre de notre festival.
Popularisateur hudby a náš letošní kurátor komorní řady.
Les concerts de musique de chambre proposant des compositions de Brahms, Strauss, Dvořák, Mahler ou Tchaïkovski ont lieu au couvent Sainte-Agnès dans la vieille ville de Prague. À noter également que le festival nous invite le 20 septembre prochain dans la cathédrale Saint-Guy au château de Prague au concert de l'ensemble vocal britannique Tallis Scholars qui se spécialise dans la musique de la Renaissance. Enfin, le samedi 17 septembre sera une journée réservée aux enfants et à leurs parents. Ils pourront assister au palais du Rodolfinum à un programme musical ludique consacré à Dvořák et à Mozart et présenté par le duo comique Igo Desman et Joe.
C'est donc la fin de ces faits et événements. Merci de votre attention. Vous êtes à l'écoute de Radio Prague et on passe à la deuxième partie de notre émission. Pour ceux qui découvrent notre série Czech Market, revoici notre intention. 1991-2016, cela fait 25 ans que les économies de l'ancien bloc soviétique se sont ouvertes, offrant la possibilité aux groupes occidentaux de s'installer sur ces marchés. Notre série propose de parcourir ces années d'implantation sur le marché tchèque, qui furent aussi plus généralement des années d'importantes transformations sociales et culturelles. Tous les 15 jours, nous en apprenons un peu plus grâce aux témoignages de Français qui sont ou ont été engagée dans la vie économique du pays. Aujourd'hui, il s'agit même d'une Française et ce n'est pas rien de le remarquer. Karin Janto-Lepe est coach à Prague depuis 1998 et aujourd'hui l'invité d'Agnès Zatorski.
Panorama.
Panorama.
On va commencer par l'actualité. Qui vous coachez-vous aujourd'hui ?
Alors, la clientèle que je rencontre aujourd'hui a énormément évolué depuis que je suis là. Il faut savoir que les entrepreneurs qui sont arrivés il y a 25 ans, beaucoup sont repartis, que les sociétés ont pendant longtemps essayé de remplacer leurs managers français par des managers tchèques. Aujourd'hui, je coach principalement des general managers, ainsi que des jeunes managers qui ont le désir de progresser dans la société et de prendre des positions à responsabilité.
Alors, vous êtes arrivé en 1995 à Prague. Vous souvenez-vous de vos premières impressions ? Est-ce que vous gardez une image de votre arrivée ?
Je suis effectivement arrivée professionnellement. Enfin, disons que je me suis installée à Prague en 1995, ce qui fait 21 ans. Cependant, j'avais eu la chance d'être présente en 1989, pour le premier nouvel an juste après la Révolution. Donc je peux dire que j'ai vécu deux arrivées entre guillemets, celle de 89 qui a été un vrai choc culturel parce qu'à l'époque j'habitais New York et je me souviens très bien avoir fait le vol New York-Vienne où je me suis arrêtée pour retrouver mon frère qui à l'époque lui était à Prague, ce qui était l'occasion de venir sur Prague et là de prendre une voiture et de rouler à travers ce qui est encore la frontière même si les frontières étaient ouvertes. Dans un décor qui était presque aujourd'hui apocalyptique, et d'arriver dans Prague, qui à l'époque était relativement vide. On était juste entre Noël et le Nouvel An. Tous les Tchèques étaient probablement dans leur ratin en train de fêter les fêtes de fin d'année. Il y avait peu de magasins, tous ces magasins étaient fermés. On ne pouvait trouver de la restauration que dans les hôtels. C'était magnifique parce que c'est Prague, et en même temps, c'était un peu désert. Par contre, quand je suis revenue en 95, il y avait déjà eu 6 ans d'ouverture à l'ouest. Et là, j'ai trouvé une ville qui était beaucoup plus ouverte, beaucoup plus joyeuse et déjà beaucoup plus animée.
Avec beaucoup d'étrangers déjà, peut-être, non ?
Il y avait déjà effectivement beaucoup d'étrangers. C'était un peu comme le Far West. Tous les aventuriers qui rêvaient de découvrir l'Est qui avait été fermé pendant des années et qui rêvaient d'une opportunité de trouver un champ d'expression pour leurs ambitions, ils se sont tous rués avec beaucoup de plaisir.
Alors, quand vous avez commencé votre activité de coaching, à ce moment-là, est-ce que vous avez d'abord coaché des Français ?
Alors, étonnamment, le coaching, même si aujourd'hui tout le monde, a priori, a ou entendu parler du coaching, ou rencontré un coach, ou même eu un coach avec qui travailler, c'était quand même une discipline qui était assez nouvelle. Disons que les personnes qui étaient les plus réceptives au coaching étaient plutôt les Américains, qui ont toujours été les premiers à tenter n'importe quelle, beaucoup de nouvelles méthodes. Et le coaching n'était pas quelque chose qui les étonnait. Donc mes premiers clients étaient des Américains.
Alors racontez-moi ces premières expériences. En quelle année déjà
Alors là, nous sommes en 98. Mm-hmm. et le temps de me présenter, le temps d'organiser un peu mes programmes. J'ai rencontré en 99 la directrice des ressources humaines de Radio Free Europe, Radio Liberty, qui est une radio américaine qui a été pendant des années à la pointe du combat contre le communisme. Et de manière étonnante, j'ai commencé à travailler avec le service des Kazakhs, des Kirghizes, des Ouzbeks et des Turkmènes. Et ça, c'était donc une radio qui diffusait encore dans les pays de l'ancien bloc soviétique. Ensuite, j'ai rencontré un Américain qui, lui, était à la tête d'une petite société déjà de télécommunications. Et son patron lui avait dit qu'il fallait qu'il améliore sa communication. Et donc, il m'a demandé de l'aider à développer sa communication pour pouvoir communiquer de manière plus efficace avec son équipe de management et avec ses employés.
Quand est-ce que sont arrivés vos premiers clients français ? Est-ce que vous aviez déjà un nom à Prague ?
Prague étant une petite ville, et étant donné que j'ai quand même été membre de la Chambre de commerce franco-tchèque et d'autres associations, j'ai réussi à être connue assez rapidement et j'ai effectivement eu la chance de rencontrer des sociétés françaises qui m'ont embauchée et de travailler entre autres avec Danone, avec Legrand, avec Carrefour. J'en oublie certainement beaucoup.
Pour Danone en l'occurrence, ça faisait peut-être 10 ans qu'ils étaient implantés en République tchèque. Alors quelles étaient les problématiques pour lesquelles vous étiez invité, convié en tant que coach ?
Alors, General Manager était français, mais il m'a demandé de coacher son directeur marketing. Le directeur marketing n'était pas français, il était d'origine européenne. Il y a quand même un souci de confidentialité quand on coach. Je me souviens très bien, le manager m'a dit, il faut qu'il comprenne comment communiquer avec les Tchèques, ou je le laisse galérer pendant 2 ans, ou je lui offre les services d'un coach, et au bout de 6 mois, il a tout compris. Comme toutes les cultures, on arrive dans un pays, parler Tchèque, c'est pas très facile, mais leur faire quand même comprendre qu'on fait un effort pour essayer de parler la même langue, même si c'est tout simplement au niveau des valeurs et des habitudes, c'est toujours quelque chose qui facilite quand même la communication et les relations dans le travail.
Alors, j'imagine que c'est un grand, grand, grand chapitre, mais est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment communiquer avec les Tchèques et si cette communication a beaucoup évolué encore depuis 10 ans, du coup ?
Alors, pour tous ceux qui connaissent Prague et qui connaissent les Tchèques, ils ne seront pas très surpris. Je dis toujours, il y a 3 mots-clés. Poroda, Spokojeni et Pomoc. Poroda signifie le confort. Les Tchèques sont très attachés à tout ce qui est confort, mais ce n'est pas seulement le confort physique, c'est aussi le confort dans les relations. Ils ont besoin de savoir que vous êtes à l'aise. Ils aiment aussi avoir des relations qui ne sont pas du tout conflictuelles. Et tout ce qui permet un relationnel agréable et plaisant fait partie de leurs objectifs et de leurs besoins. Le spokojeni, c'est satisfaction. Tout ce qui permet d'être satisfait au travail ou dans la vie personnelle est très important pour eux. Et pomoc, qui veut dire aide. Et je dois reconnaître que c'est un des rares pays où les gens sont très désireux de vous aider. Et quand vous avez besoin de quelque chose, et là j'ai beaucoup d'histoires très positives à raconter sur l'aide que les Tchèques m'ont apportée depuis maintenant 21 ans.
Et est-ce que vous pensez qu'au sein de l'entreprise, les Tchèques sont plutôt solidaires entre eux ?
Alors c'est pas pareil, parce qu'être solidaire, quelque part, c'est se sentir responsable de l'autre. Honnêtement, j'en sais rien, parce que le coaching, c'est quand même relativement individuel. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les Tchèques sont prêts à vous aider si vous leur posez la question.
Est-ce qu'il y a entre les Tchèques et les Français des valeurs de fond qu'ils partagent et sur lesquelles, justement, vous pouvez les amener à s'entendre en particulier ?
Dans tous les pays et dans toutes les cultures, je pense que les gens partagent des valeurs essentielles. Je crois que ce qui rapproche les Français et les Tchèques, c'est le sens de la famille et surtout le sens des relations humaines. Les Tchèques sont très attachés à ce que ça se passe bien au sein de leur équipe. Le français un peu moins. Le français est plus capable de séparer le travail de la vie personnelle. Cependant, je pense que les deux cultures aiment bien justement tout ce qui est convivial et tout ce qui leur permet de s'exprimer de manière personnelle.
Dans le cas des entreprises françaises qui n'ont pas réussi à s'implanter en République tchèque, savez-vous ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer ?
Honnêtement, je ne suis pas au courant des vraies raisons. Ce que je peux imaginer, mais ce n'est pas seulement le cas des Tchèques, je pense que le français a du mal, quand il va dans un pays, à prendre le temps de comprendre la culture. Le français, pour un tas de raisons, est à plein d'idées, est très désireux de faire les choses à sa façon, et je ne suis pas sûre que le français prenne le temps de parler la langue du pays. Quand je dis langue, ce n'est pas seulement la langue, c'est vraiment comprendre les valeurs et la culture. Et les Tchèques ont besoin qu'on prenne le temps de les comprendre.
Alors, après 18 ans maintenant de coaching en République tchèque, est-ce que les motivations des gens que vous rencontrez ont beaucoup évolué vis-à-vis de leur vie professionnelle, puisqu'ils vous rencontrent dans ce cadre-là?
Alors, la première chose qui a certainement évolué, c'est que le coaching est perçu comme quelque chose un peu comme maintenant un avantage. Alors, tout au début, très souvent, les gens disaient « Mais moi, je vais très bien, j'ai pas besoin d'un coach. » Tout va très vite. Les managers n'ont plus toujours le temps d'être formés. Et beaucoup de managers, même de chefs d'entreprise, sont contents de trouver quelqu'un qui peut les écouter et leur faciliter le travail. À ce niveau-là, le coach devient de plus en plus un allié plutôt que quelqu'un qui risque de les mettre en porte-à-faux par rapport à leurs activités. Les attentes du début étaient assez simples. C'est comment être plus efficace au travail. De plus en plus, ce qui est important, ce sont les relations au sein de l'entreprise et tout ce qu'on appelle les jeux politiques et les jeux d'influence et les jeux de pouvoir. Ils sont de plus en plus conscients que progresser au sein d'une entreprise ne demande pas que des compétences et que de faire du bon boulot n'est plus suffisant. Si on ne comprend pas comment est-ce que la dynamique politique interne et la dynamique économique, tout ça se met en place, on a du mal à progresser.
Alors dites-moi, depuis 1995, ça fait maintenant 21 ans où vous habitez Prague, vous n'êtes jamais reparti habiter en tout cas ailleurs. Qu'est-ce qui vous a attaché à Prague ?
Pour être honnête, je ne pensais pas rester aussi longtemps. De la même façon, quand j'ai atterri à New York en 1983, je ne pensais pas rester 8 ans. La vie a fait que j'ai atterri à Prague et j'ai découvert avec beaucoup de plaisir tous les avantages qu'une petite capitale pouvait apporter. Vous avez tous les bénéfices d'une vie culturelle très active, d'une vie sociale très active, d'être au cœur de l'Europe. Donc il y a un brassage de culture, il y a un brassage de personnalité qui est très enrichissant. Il y a une stabilité quand même qui est étonnante. Les Tchèques, comme je dis, aiment bien leur confort, ce qui leur permet de mettre en avant tout ce qui est sécurité. C'est une ville qui est très safe. On peut se balader en tant que femme seule le soir sans craindre grand-chose. On est à 1h15 de Paris, on est à 3 heures de route de Vienne, on est à 1h30 de Dresden. Disons qu'il y a tous les avantages d'être un vol d'oiseau de tous les autres pays d'Europe.
Voilà, c'est ainsi que s'achève pour aujourd'hui notre programme qui vous était présenté par Alžbieta Ruškova. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site internet de Radio Prague au www.radio.cz/fr ou que vous pouvez nous retrouver bien sûr également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ahoy !